Alors, bonjour à tous.
Bonsoir, oui.
Vous allez bien? Ça va?
Oui.
Que le Seigneur soit béni, nous sommes bien dans sa présence. Hein. On a beau à le répéter, hein, à le mentionner encore plusieurs fois, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon la présence de Dieu, et quand elle nous envahit, hein, quand on sent son amour, quand on se sent surtout aimé, hein, quand on se sent aimé par ce véritable amour. Donc l'amour de Dieu, l'amour agapé, l'amour agapo, hein, et cet amour-là qui est venu nous transformer. Hein, cet amour-là qui est venu nous aimer et qui nous aime encore. Et comme le cantique disait, il veut nous porter. Et quelle vérité, hein, il veut encore nous porter jusqu'à notre vieillesse. Jusqu'à notre vieillesse, il veut encore nous porter. Et il veut encore toujours sauver celui qui est perdu. Si d'ailleurs dans nos églises aujourd'hui nous prêchons encore la repentance, alors certes ce n'est pas que pour les païens ou pour les non convertis, hein, mais si on prêche encore le message de la repentance, c'est qu'il y a des personnes encore qui ne sont pas sauvées, qui ne sont pas encore en Christ, qui ne sont pas nées de nouveau. C'est bien d'écouter la parole de Dieu, c'est bien d'écouter le message de Dieu, mais ce qui sauve, c'est la nouvelle naissance. C'est le pardon de nos péchés. Et quel privilège et quelle grâce que nous avons. On ne mérite rien, mais son amour, ses yeux sont posés sur nous et nous a choisis en tant qu'enfants de Dieu, co-héritiers du ciel. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Hein. Quelle grâce de pouvoir annoncer la parole de Dieu. J'aimerais qu'on rentre directement dans la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, puis au verset 1, jusqu'au verset 16. Après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement, dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle était sa maladie? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit coucher, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme retrouva la santé et prit son lit et se mit à marcher. C'était le sabbat, ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: « C'est le sabbat, et il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Il leur répondit: « Celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche. » Et lui demandèrent: « Qui est l'homme qui t'a dit, prends et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: « Voici, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Donc, on voit l'histoire d'un paralytique à Bethesda. Dans cette histoire, se déroule à Jérusalem, n'est mentionné que dans l'évangile de Jean. Elle a lieu lorsque d'une fête. Il y a eu une fête des Juifs, donc la commémoration de la liberté des Juifs, de la mort qui lui avait préparée Haman du temps de la reine d'Esther. On peut voir dans le premier verset: après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Donc c'était les Juifs, c'était une fête juive. Et puis dans cette fête-là, c'était comme une fête, comme une victoire. Ils fêtaient une victoire. Et puis, ils se commémoraient, en faisant cette fête-là, ils se commémoraient cette victoire parce que Haman avait décidé, bien sûr, avec la reine Esther, d'exterminer tout le peuple juif. Mais nous savons que ce peuple-là est choisi, a été choisi et toujours choisi par Dieu. Et amen. Et le peuple de Dieu choisi. Et donc, Dieu les a gardés encore une fois. Malgré leur désobéissance, à plusieurs reprises, Dieu les a gardés encore une fois. Et là, dans cette fête-là, ils célébraient donc cette victoire. Et puis, c'était un jour qu'ils s'offraient des cadeaux. Donc, c'était un temps de fête. Et puis, il y avait des distributions de cadeaux. Mais Jésus, mais l'homme de notre histoire n'a rien à fêter. Il ne trouvait pas à la fête. Jésus se trouvait à Bethesda, dans cet endroit précis. Vous savez que la Bible nous dit que Jésus passa de ville en ville, de village en village, et là où il passait, il se passait toujours quelque chose. Même dans une ville qu'il est passé et qui avait des cœurs incrédules. Vous connaissez ce passage-là. Si mes souvenirs sont bons, c'était à Génézareth. Que leur cœur de ces habitants-là était incrédule. Jésus a fait quelques miracles, mais il passe à outre. Et puis là, on voit que Jésus se trouve à Bethesda. Il y avait là, dans ce lieu, comme on l'a vu, beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades, une multitude, la Bible nous dit, dans ce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de malades, autour de cette piscine. Et de temps en temps, un ange descendait et faisait bouger l'eau. Et quand l'eau s'arrêta de bouger, le premier qui plongea était totalement guéri, peu importe sa maladie ou son infirmité, il était totalement guéri. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est parce que Jésus s'intéressa à un homme en particulier parmi la multitude qu'il y avait. Donc il y avait beaucoup de personnes, mais là, on voit dans le texte, chapitre 5, donc dans Jean 5, Au verset 4, car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle qu'ait été sa maladie. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit. Jésus le vit couché. Au verset 6. Il y avait quand même des besoins. Il y avait des personnes malades. Pourquoi Jésus s'est-il intéressé principalement à cette personne-là, à ce monsieur qui n'a pas de nom d'ailleurs, à ce monsieur anonyme qui n'a pas de nom? Jésus s'intéresse à cette personne-là. Un malade incurable. Bethesda veut dire maison de miséricorde. Et vous savez, je vais vous faire part de quelque chose qui s'est passé cet après-midi en préparant le message. J'ai dit comme ça au Seigneur. Je lui ai dit, voilà. Je ne sais pas, je pensais à toi, Guy, après-midi, en priant. Je lui ai dit, Seigneur, si c'est vraiment ce que tu veux que j'apporte, je veux que Guy, dans sa prière, dise miséricorde. Et je ne sais pas si vous êtes attentif aux prières des frères et sœurs, parce qu'il faut être à l'écoute des prières de nos frères et sœurs. Il a parlé de la miséricorde. Et croyez-moi que j'étais vraiment soulagé. Donc merci Guy, mais merci Seigneur. Vraiment, hein, voilà, sa parole est toujours confirmée. Et amen. Mais on a besoin de cette confirmation-là, cette assurance-là, parce qu'on prêche quand même tout de même la parole de Dieu. On ne veut pas seulement prêcher pour prêcher, mais on veut le mot de Dieu, ce que le Seigneur veut pour son peuple. Et c'est ça le principal. Peu importe si le message est cadré ou pas, le principal, c'est le mot de Dieu pour ta vie, pour ma vie. Amen. Donc, maison de miséricorde. Mais là, c'est la personne elle-même. La miséricorde en personne qui vient dans ce lieu. Alléluia. La miséricorde en personne qui vient dans ce lieu. Il entre dans ce lieu de misère, ce lieu de là où il y a tellement de besoins, et il se sent attiré vers un malade en particulier. Que savons-nous de lui ? Nous ignorons son nom, sa situation familiale, sa profession, de quelle maladie il souffrait, et ce qui en était la cause surtout. Nous savons seulement qu'il était malade depuis 38 ans. Très long. 38 ans. C'est long, hein ? Moi, j'ai 34 ans, déjà. Je ne sais pas quel âge vous avez et je ne me permettrai pas de vous le demander. Mais j'ai 34 ans et imaginez 38 ans de souffrance. 38 ans dans un lit, paralysé, ne pouvant rien faire. Donc il resta couché la plus grande partie de sa vie qu'il avait donc passée à Bethesda et qu'il ne pouvait pas se déplacer. Il était aussi sans ressources, c'est-à-dire le paralytique n'avait sûrement pas de famille ni amis pour s'occuper de lui. Il devait se défendre tout seul. Il paraît qu'à Bethesda, c'était chacun pour soi. Pourtant, ils étaient dans un lieu appelé Maison de Miséricorde. Donc, des personnes autour pouvaient tout de même avoir un peu de compassion ou même aller un peu de pitié, je dirais même. De la compassion pour cette personne-là qui ne pouvait pas se lever. Il y avait des boiteux, il y avait des aveugles. Bon, eux pouvaient se déplacer, pouvaient aller se jeter dans la piscine. Mais cet homme-là, qui pouvait l'aider ? Il ne pouvait pas... De lui-même, il ne pouvait rien faire, mais en plus de ça, autour de lui, personne ne l'aidait non plus. Chacun regardait son propre intérêt, son propre besoin. Ah, mais moi aussi, hein. Moi aussi je suis malade, hein. Moi aussi je suis boiteux, hein. Moi aussi je suis aveugle. Ah, lui il est malade, ben ouais, ben moi aussi. Moi aussi. Et puis comme on dit souvent, on regarde notre propre nombril, notre propre intérêt, que notre besoin. Et puis, il y a même des personnes qui, par rapport à leur situation, semblerait-il qu'elle est pire que le monde entier. Sa situation est pire que le monde entier. Mais là, on voit un homme qui ne pouvait pas se déplacer, paralysé sur un lit. Incroyable, hein ? Alors la Bible, la parole de Dieu mentionne qu'il était paralysé, qu'il ne pouvait pas se déplacer, mais elle ne mentionne pas qu'il était aveugle. Est-ce qu'il était aveugle ? La Bible ne mentionne pas, mais en tout cas, imaginez la scène, quoi. Un homme allongé. Et il voyait toutes les personnes quand l'ange venait, quand l'eau se mouvait, quand l'eau bougeait, un allait plonger à sa place à chaque fois. Et quand il ressortait, il était totalement guéri. Imaginez ce qu'il ressentait dans son cœur. La souffrance qu'il aurait pu avoir, qu'il a pu avoir cet homme-là. en disant « Mais je suis allongé, paralysé, les autres peuvent, mais moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas. » Il était sans espérance. Cet homme-là avait déjà accepté sa situation. Cet homme-là avait déjà accepté sa situation. Il ne voulait plus qu'on lui promette quelque chose. Autant au début, il avait souvent espéré, mais il avait été déçu tant de fois qu'il n'osait plus espérer. Et autant c'est ton cas ce soir. Peut-être que toi aussi, tu te dis, ben décidément, et souvent on le dit, et j'ai entendu ces paroles-là, ben si c'est écrit comme ça, ben c'est que c'est comme ça. Imaginez cette personne-là dans cette souffrance. Donc, négatif. Il sait exactement ce qui ne se passe pas, lui. Ah, je ne peux pas. D'autres, oui. Mais pas moi. Oui, d'autres, ils peuvent être guéris. Oui, les autres, oui. Je connais même des personnes qui emmènent les personnes au Seigneur, mais eux ne sont même pas en Christ. Oui, oui. Des personnes qui ne sont pas en Christ encouragent les personnes à aller aux réunions, à accepter le Seigneur, se repentir de ses péchés, etc. Mais lui, par contre, il reste dans son état. Lui, il se dit, non mais moi, décidément, bon, je suis gentil. Oui, mais tu peux être le plus gentil du monde entier. Ça ne te fera pas rentrer au ciel, hein, ni avoir ta place. Hein. Gentil, c'est très bien, mais cela ne trouve pas l'accès à la grâce de Dieu. Donc il était dans un état négatif. Et Jésus le voit coucher. Et j'ai marqué comme ça, Jésus voit notre vraie condition. On a beau à se cacher, on a beau à se faire une carapace ou avoir une apparence, le cacher par un sourire ou venir ici avec une belle cravate, un beau costard, mais à l'intérieur, c'est une détresse. Mais Dieu, du moins Jésus-Christ, alléluia, voit notre vraie condition, notre état actuel. Jésus voit tous les cas Bethesda. Il voit tous les cas Bethesda ce soir. Jésus se sent attiré par les misérables et ceux qui ont besoin de guérison. Parce qu'il les comprend. Hébreux 4.15, il dira comme ça. Hébreux 4.15. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il comprend. Il te comprend. Si personne autour de toi ne te comprend, ni ta femme, ton mari, tes enfants, ta mère, ton père, il y en a un qui te comprend. Son nom, c'est Jésus-Christ. Jésus savait que cet homme-là se trouvait là depuis très longtemps. Il sait tout sur nous, notre passé, nos péchés, nos défauts, mais aussi nos désirs, nos ambitions, nos espoirs. Mais ce qui est important, ce n'est pas seulement que Jésus nous voit, c'est aussi la manière dont il nous regarde. Il s'intéresse à toi. Il s'intéresse à ton besoin. Il s'intéresse à toi. Non seulement il te voit, mais il te regarde. Car Jésus ne regarde pas comme les gens nous regardent, mais Jésus nous regarde comme Dieu nous regarde. Et une question que pose Jésus, veux-tu être guéri ? C'est comme si on dirait à un aveugle, veux-tu voir ? Question étonnante. Veux-tu être guéri ? Veux-tu retrouver la santé ? Et puis, l'homme répond, dit, mais j'ai personne pour me jeter dans l'eau. J'ai personne. Il ne réalisait pas le privilège, la grâce qu'il avait de voir Jésus devant lui. Jésus est venu à sa rencontre, mais lui n'a pas pris garde, n'a pas point pris garde. Combien de fois il est venu à toi, le Seigneur ? Combien de fois il a frappé à la porte de ton cœur ? Combien de fois ? Combien de fois il t'a dit, laisse-moi entrer ? Combien de fois il a frappé à la porte de ton cœur ? Mais tu n'as pas répondu. Et tu ne réponds toujours pas. Quand est-ce que vas-tu répondre à l'appel de Dieu ? Veux-tu être guéri ? Vous savez, il y a des personnes qui, quand l'ange venait, l'eau bougeait, les malades étaient guéris quand ils sortaient de l'eau. Et cette personne-là ne pouvait pas bouger. Jésus est allé à sa rencontre. Et il lui a dit lui-même, il n'a pas dit, viens, je te porte. Mais attends, écoute, on attend que l'ange descende, que l'eau bouge, et quand l'eau bouge, je te porte et je te mets dans l'eau. Mais Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Mais il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Je te dis, écoute, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Arrête de discuter, arrête de réfléchir. Arrête. Je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi tu cherches des complications ? Pourquoi tu attends que ce soit l'eau qui te guérit alors qu'il y a la parole de Dieu devant toi ? La parole s'est faite chair, c'est Jésus-Christ. Jésus est devant toi, Jésus est ici ce soir et tu veux être sauvé à ta manière. Tu veux que Jésus te sauve à ta manière à toi. Tu veux te convertir à ta manière à toi, au temps voulu de toi. Tu veux en gros faire comme toi tu veux, quoi. Quand toi tu veux, tu décides. Le jour de ta conversion, tu décides le jour de ta nouvelle naissance, tu décides tout, quoi. Bon, c'est le matin, c'est 10 heures, bon, allez, aujourd'hui je vais me convertir, t'es. Aujourd'hui je veux devenir chrétien, voilà. Allez, c'est bon. On se lève, ils viennent 2-3 fois aux réunions, ça y est, il est chrétien ? Non, pas du tout. Il faut qu'il y ait un bouleversement. Il faut qu'il y ait un bouleversement. Et quand Jésus va voir cet homme-là, c'est parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas se déplacer. Jésus ne fera jamais ce que toi tu peux faire. Jésus ne fera jamais ce que toi tu peux faire. Ce que toi, tu peux faire, Jésus ne fera jamais à ta place. Mais ce que toi, tu ne peux pas faire, là, Jésus intervient. Quand Jésus appelle, qu'il frappe à la porte de ton cœur, si mes souvenirs sont bons, dans Deutéronome 30, au verset 19, il dira comme ça, « J'ai mis devant toi la mort et la vie. » La bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie afin que tu vives. J'ai mis devant toi. Tu as le choix. Tu as le choix de dire oui à Dieu. Tu as le choix de dire non. Tu as le choix. Mais Jésus t'appelle. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Maintenant, le choix t'appartient. C'est bien d'être guéri physiquement, mais si on est guéri physiquement et que nous ne sommes pas nés de nouveau, à quoi sert-il ? J'ai ma belle-mère qui est malade, beaucoup malade. Et puis ma femme Tina a dit une parole magnifique. Et puis ça fait très longtemps qu'elle dit ça. Elle dit, tu sais, je préfère que ma mère meure de sa maladie, mais qu'elle soit réconciliée avec le Seigneur. Que plutôt qu'elle guérisse et qu'elle refuse de suivre le Seigneur. Rappelez-vous des 10 lépreux. Les 10 sont venus vers Jésus. Les 10 ont été guéris. Mais sur les 10, il n'y en a qu'un qui est revenu. Sur les 10, il n'y en a qu'un qui est revenu. Alors certes, Dieu est capable de guérir n'importe quelle maladie, n'importe quelle infirmité. Il est capable. Mais ce qu'il veut avant tout aussi, c'est te sauver. Il veut te sauver. La guérison, c'est très bien. Mais le salut, c'est beaucoup mieux. C'est le salut qui te fera rentrer au ciel. C'est la grâce de Dieu. Tu peux être guéri, mais être perdu. Je préfère soit mourir dans ma maladie, ou etc. Mais être réconcilié avec le Seigneur. Donc je te conseille ce soir, et puis j'arrête là. Je te conseille ce soir, si tu me le permets, ne limite pas le Seigneur. Ne le limite pas. Crois-moi, c'est un Dieu tout-puissant. Arrête de te morfondre. Arrête de te dire, non, mais moi, c'est pas possible pour moi. Ne fais pas comme cet homme-là qui a accepté sa condition. C'est possible pour toi. C'est possible d'être guéri, mais c'est possible aussi d'être sauvé. C'est son cœur, c'est le cœur du Père. Il veut que tous les hommes, et entre parenthèses, les femmes aussi, eh oui, que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Repens-toi. Repens-toi. Au nom de Jésus, repens-toi. Tu as trop laissé les volets fermés de ton cœur. Tu as trop laissé longtemps les volets fermés de ton cœur. Que ce soit des volets en bois. Parce qu'aujourd'hui, les volets ne sont plus à la mode. Hein. Que ce soit des volets en bois. Des volets manuels. Des volets roulants manuels. Ou des volets électriques. Cela fait trop longtemps aujourd'hui que tes volets sont fermés et que tu vis dans l'obscurité. Tu n'acceptes plus rien dans ton cœur. Il n'y a plus rien qui veut passer. Et pourtant, la lueur, la lumière de Jésus-Christ veut pénétrer ton cœur, mais ton volet est toujours fermé. Tu ne veux pas laisser entrer cette lumière. Mais au nom de Jésus, que ce cœur de pierre soit brisé au nom de Jésus ce soir. Que ton cœur de pierre soit brisé au nom de Jésus ce soir. Laisse entrer la lumière de Christ dans ton cœur. Laisse-la entrer au nom de Jésus. Ouvre les volets. Accepte d'ouvrir les volets, tu verras. Oui, autant que tu as été déçu. Oui, tu as été déçu par beaucoup de personnes, beaucoup d'êtres humains. C'est pour ça que tu as fermé ces volets-là, pour plus souffrir. Tu as peur de souffrir. Mais si tu ouvres les volets à Christ, crois-moi, il va te guérir. Il ne te décevra jamais. Il ne m'a jamais déçu. Les hommes m'ont déçu. Ma famille, ma propre famille, en chair, de sang, m'ont déçu. Mais lui, il ne m'a jamais déçu. Il ne m'a jamais abandonné. Il est toujours resté fidèle. Crois-moi. Fais l'expérience ce soir. Je te mets au défi. Fais l'expérience ce soir. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre les volets de ton cœur. Et tu verras, la lumière de Christ, la lumière de sa parole va te bouleverser. Que le Seigneur te bénisse. Amen.